Chapitre 5, Chantilly, novembre 1838. Le duc de Rovigo. Monsieur le duc de Rovigo, en se frappant la poitrine, prend son rang dans la procession qui vient se confesser à la tombe. J'avais été longtemps sous le pouvoir du ministre de la police. Il tomba sous l'influence qu'il supposait m'être rendue au retour de la légitimité. Il me communiqua une partie de ses mémoires. Les hommes, dans sa position, parlent de ce qu'ils ont fait avec une merveilleuse candeur. Ils ne se doutent pas de ce qu'ils disent contre eux-mêmes. S'accusant sans s'en apercevoir, ils ne soupçonnent pas qu'il y ait une autre opinion que la leur, et sur les fonctions dont ils s'étaient chargés, et sur la conduite qu'ils ont tenue. S'ils ont manqué de fidélité, ils ne croient pas avoir violé leur serment. S'ils ont pris sur eux des rôles qui répugnent à d'autres caractères, ils pensent avoir rendu de grands services. Leur naïveté ne les justifie pas, mais elle les excuse. Monsieur le duc de Rovigo me consulta sur les chapitres où il traite de la mort du duc d'Enghien. Il voulait connaître ma pensée, précisément parce qu'il savait ce que j'avais fait. Je lui sus gré de cette marque d'estime, et lui rendant franchise pour franchise, je lui conseillais de ne rien publier. Je lui dis « Laissez mourir tout cela. En France, l'oubli ne se fait pas attendre. Vous vous imaginez laver Napoléon d'un reproche et rejeter la faute sur M. de Talleyrand. Or, vous ne justifiez pas assez le premier et n'accusez pas assez le second. Vous prêtez le flanc à vos ennemis. Ils ne manqueront pas de vous répondre. Qu'avez-vous besoin de faire souvenir le public que vous commandiez la gendarmerie d'élite à Vincennes ? Il ignorait la part directe que vous avez eue dans cette action de malheur, et vous la lui révélez. Général, jetez le manuscrit au feu. Je vous parle dans votre intérêt. » Imbu des maximes gouvernementales de l'Empire, le duc de Rovigo pensait que ces maximes convenaient également au trône légitime. Il avait la conviction que sa brochure lui rouvrirait la porte des Tuileries. C'est en partie à la lumière de cet écrit que la postérité verra se dessiner les fantômes de deuil. Je voulus cacher l'inculpé venu me demander asile pendant la nuit. Il n'accepta point la protection de mon foyer. Monsieur de Rovigo fait le récit du départ de Monsieur de Caulaincourt qu'il ne nomme point. Il parle de l'enlèvement à Ettenheim, du passage du prisonnier à Strasbourg et de son arrivée à Vincennes. Après une expédition sur les côtes de la Normandie, le général Savary était revenu à la Malmaison. Il est appelé à 5 heures du soir, le 19 mars 1804, dans le cabinet du premier consul, qui lui remet une lettre cachetée pour la porter au général Murat, gouverneur de Paris. Il vole chez le général, se croise avec le ministre des Relations extérieures, reçoit l'ordre de prendre la gendarmerie d'élite et d'aller à Vincennes. Il s'y rend à 8 heures du soir et voit arriver les membres de la commission. Il pénètre bientôt dans la salle où l'on jugeait le prince, le 20, à 1 heure du matin. Il va s'asseoir derrière le président. Il rapporte les réponses du duc d'Enghien à peu près comme les rapporte le procès-verbal de l'unique séance. Il m'a raconté que le prince, après avoir donné ses dernières explications, ôta vivement sa casquette, la posa sur la table et, comme un homme qui résigne sa vie, dit au président « Monsieur, je n'ai plus rien à dire. » Monsieur de Rovigo insiste sur ce que la séance n'était point mystérieuse. Les portes de la salle, affirme-t-il, étaient ouvertes et libres pour tous ceux qui pouvaient s'y rendre à 7 heures. Monsieur Dupin avait déjà remarqué cette perturbation de raisonnement. À cette occasion, M. Achille Roche, qui semble écrire pour M. de Talleyrand, s'écrie « La séance ne fut point mystérieuse. À minuit, elle se tint dans la partie habitée du château, dans la partie habitée d'une prison. Qui assistait donc à cette séance? Des geôliers, des soldats, des bourreaux ?» Nul ne pouvait donner des détails plus exacts sur le moment et le lieu du coup de foudre que M. le duc de Rovigo. Écoutons-le. Après le prononcé de l'arrêt, je me retirai avec les officiers de mon corps, qui, comme moi, avaient assisté au débat, et j'allai rejoindre les troupes qui étaient sur l'esplanade du château. L'officier, qui commandait l'infanterie de ma légion, vint me dire avec une émotion profonde qu'on lui demandait un piquet pour exécuter la sentence de la commission militaire. « Donnez-le, » répondis-je. « Mais où dois-je le placer ? Là où vous ne pourrez blesser personne. » Car déjà les habitants des populeux environs de Paris étaient sur les routes pour se rendre aux divers marchés. Après avoir bien examiné les lieux, l'officier choisit le fossé comme l'endroit le plus sûr pour ne blesser personne. Monsieur le duc d'Enghien y fut conduit par l'escalier de la tour d'entrée du côté du parc et y entendit la sentence qui fut exécutée. Sous ce paragraphe, on trouve cette note de l'auteur du mémoire. Entre la sentence et son exécution, on avait creusé une fosse. C'est ce qui a fait dire qu'on l'avait creusée avant le jugement. Malheureusement, les inadvertances sont ici déplorables. Monsieur de Rovigo prétend, dit Monsieur Achille Roche, apologiste de Monsieur de Talleyrand, qu'il a obéi. Qui lui a transmis l'ordre d'exécution ? Il paraît que c'est un Monsieur Delga, tué à Wagram. Mais que ce soit, ou ne soit pas ce Monsieur Delga, si Monsieur Savary se trompe en nous nommant Monsieur Delga, on ne réclamera pas, aujourd'hui sans doute, la gloire qu'il attribue à cet officier. On accuse M. de Rovigo d'avoir hâté cette exécution. « Ce n'est pas lui, » répond-il. « Un homme qui est mort lui a dit qu'on avait donné des ordres pour la hâter. » Le duc de Rovigo n'est pas heureux au sujet de l'exécution, qu'il raconte avoir eu lieu de jour. Cela, d'ailleurs, ne changeant rien au fait, n'ôterait qu'un flambeau au supplice. À l'heure où se lève le soleil, en plein air, fallait-il, dit le général, une lanterne pour voir un homme à six pas. Ce n'est pas que le soleil, ajoute-t-il, fût clair et serein. Comme il était tombé toute la nuit une pluie fine, il restait encore un brouillard humide qui retardait son apparition. L'exécution a eu lieu à 6 heures du matin. Le fait est attesté par des pièces irrécusables. Et le général ne fournit ni n'indique ces pièces. La marche du procès démontre que le duc d'Enghien fut jugé à 2 heures du matin et fut fusillé de suite. Ces mots, 2 heures du matin, écrits d'abord à la première minute de l'arrêt, sont ensuite biffés sur 7 minutes. Le procès-verbal de l'exhumation prouve, par la déposition de 3 témoins, Madame Bon, le sieur Godard et le sieur Bounelet, celui-ci avait aidé à creuser la fosse, que la mise à mort s'effectua de nuit. Monsieur Dupin aîné rappelle la circonstance d'un falot attaché sur le cœur du duc d'Enghien pour servir de point de mire, ou tenu à même intention d'une main ferme par le prince. Il a été question d'une grosse pierre retirée de la fosse et dont on aurait écrasé la tête du patient. Enfin, le duc de Rovigo devait s'être vanté de posséder quelques dépouilles de l'Holocauste. J'ai cru moi-même à ces bruits, mais les pièces légales prouvent qu'ils n'étaient pas fondés. Par le procès-verbal, en date du mercredi 20 mars 1816, des médecins et chirurgiens, pour l'exhumation du corps, il a été reconnu que la tête était brisée, que la mâchoire supérieure, entièrement séparée des os de la face, était garnie de 12 dents, que la mâchoire inférieure, fracturée dans sa partie moyenne, était partagée en 2 et ne présentait plus que 3 dents. Le corps était à plat sur le ventre, la tête plus basse que les pieds, les vertèbres du cou avaient une chaîne d'or. Le second procès-verbal d'exhumation, à la même date, 20 mars 1816, le procès-verbal général, constate qu'on a retrouvé, avec les restes du squelette, une bourse de maroquin contenant 11 pièces d'or, 70 pièces d'or renfermées dans des rouleaux cachetés, des cheveux, des débris de vêtements, des morceaux de casquette portant l'empreinte des balles qu'il avait traversées. Ainsi, M. de Rovigo n'a rien pris des dépouilles. La terre qui les retenait les a rendues et a témoigné de la probité du général. Une lanterne n'a point été attachée sur le cœur du prince. On en aurait trouvé les fragments, comme ceux de la casquette trouée. Une grosse pierre n'a point été retirée de la fosse. Le feu du piquet, à 6 pas, a suffi pour mettre en pièces la tête, pour séparer la mâchoire supérieure des os de la face, etc. À cette dérision des vanités humaines, il ne manquait que l'immolation pareille de Murat, gouverneur de Paris, la mort de Bonaparte captif et cette inscription gravée sur le cercueil du duc d'Enghien. Ici est le corps de très haut et puissant prince du sang, pair de France, mort à Vincennes le 21 mars 1804, âgé de 31 ans, 7 mois et 19 jours. Le corps était des os fracassés et nus, le haut et puissant prince, les fragments brisés de la carcasse d'un soldat. Pas un mot qui rappelle la catastrophe, pas un mot de blâme ou de douleur dans cette épitaphe gravée par une famille en larmes. Prodigieux effet du respect que le siècle porte aux œuvres et aux susceptibilités révolutionnaires. On s'est hâté de même de faire disparaître la chapelle mortuaire du duc de Berry. Que de néant, Bourbon, inutilement rentré dans vos palais, vous n'avez été occupé que d'exhumations et de funérailles. Votre temps de vie était passé, Dieu l'a voulu. L'ancienne gloire de la France périt sous les yeux de l'ombre du grand Condé dans un fossé de Vincennes. Peut-être était-ce au lieu même où Louis IX, à qui l'on alloua que comme à un saint, s'asseyoua sous un chêne, et où tous ceux qui avoient affaire à lui venoient à lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autre, et quand il voyoit aucune chose à amender en la parole de ceux qui parloient pour autrui, lui-même l'amendoie de sa bouche, et tout le peuple qui avoit affaire par devant lui, et toi autour de lui. Joinville. Le duc d'Enghien demanda à parler à Bonaparte. Il avait affaire par devant lui. Il ne fut point écouté. Qui, du bord du Ravelin, contemplait au fond du fossé ses armes, ses soldats à peine éclairés d'une lanterne dans le brouillard, et les ombres, comme dans la nuit éternelle? Où était-il placé, le falot? Le duc d'Enghien avait-il à ses pieds sa fosse ouverte? Fut-il obligé de l'enjamber pour se mettre à la distance des 6 pas mentionnés par le duc de Rovigo? On a conservé une lettre de M. le duc d'Enghien, âgé de 9 ans, à son père, le duc de Bourbon. Il lui dit « Tous les Enghiens sont heureux. Celui de la bataille de Cerisoles, celui qui gagna la bataille de Rocroi. J'espère l'être aussi. » Est-il vrai qu'on refusa un prêtre à la victime? Est-il vrai qu'elle ne trouva qu'avec difficulté une main pour se charger de transmettre à une femme le dernier gage d'un attachement? Qu'importait au bourreau un sentiment de piété ou de tendresse? Ils étaient là pour tuer, le duc d'Enghien pour mourir. Le duc d'Enghien avait épousé secrètement, par le ministère d'un prêtre, la princesse Charlotte de Rohan. En ces temps où la patrie était errante, un homme, en raison même de son élévation, était arrêté par 1000 entraves politiques. Pour jouir de ce que la société publique accorde à tous, il était obligé de se cacher. Ce mariage légitime, aujourd'hui connu, rehausse l'éclat d'une fin tragique. Il substitue la gloire du ciel au pardon du ciel. La religion perpétue la pompe du malheur quand, après la catastrophe accomplie, la croix s'élève sur le lieu désert. Chapitre 6. Chantilly, novembre 1838. Monsieur de Talleyrand. Monsieur de Talleyrand, après la brochure de Monsieur de Rovigo, avait présenté un mémoire justificatif à Louis XVIII. Ce mémoire, que je n'ai point vu et qui devait tout éclaircir, n'éclaircissait rien. En 1820, nommé ministre plénipotentiaire à Berlin, je déterrai dans les archives de l'ambassade une lettre du citoyen Laforêt, écrite au citoyen Talleyrand, au sujet de M. le duc d'Enghien. Cette lettre énergique est d'autant plus honorable pour son auteur qu'il ne craignait pas de compromettre sa carrière, sans recevoir de récompense de l'opinion publique, sa démarche devant rester ignorée. Noble abnégation d'un homme qui, par son obscurité même, avait dévolu ce qu'il a fait de bien à l'obscurité. M. de Talleyrand reçut la leçon et se tut. Du moins, je ne trouvai rien de lui dans les mêmes archives, concernant la mort du prince. Le ministre des Relations extérieures avait pourtant mandé, le 2 Ventôse, au ministre de l'Électeur de Bade, que le premier consul avait cru devoir donner à des détachements l'ordre de se rendre à Offenbourg et à Ettenheim pour y saisir les instigateurs des conspirations inouïes qui, par leur nature, mettent hors du droit des gens tous ceux qui manifestement y ont pris part. Un passage des généraux Courgaud, Montholon et du docteur Varde met en scène Bonaparte. « Mon ministre, dit-il, me représenta fortement qu'il fallait se saisir du duc d'Enghien, quoiqu'il fût sur un territoire neutre. Mais j'hésitais encore, et le prince de Bénévent m'apporta deux fois pour que je le signasse l'ordre de son arrestation. Ce ne fut cependant qu'après que je me fus convaincu de l'urgence d'un tel acte, que je me décidai à le signer. Au dire du mémorial de Sainte-Hélène, ces paroles seraient échappées à Bonaparte. Le duc d'Enghien se comporta devant le tribunal avec une grande bravoure. À son arrivée à Strasbourg, il m'écrivit une lettre. Cette lettre fut remise à Talleyrand, qui la garda jusqu'à l'exécution. Je crois peu à cette lettre. Napoléon aura transformé en lettre la demande que fit le duc d'Enghien de parler au vainqueur de l'Italie, ou plutôt les quelques lignes exprimant cette demande, qu'avant de signer l'interrogatoire prêté devant le capitaine rapporteur, le prince avait tracé de sa propre main. Toutefois, parce que cette lettre ne se retrouverait pas, il ne faudrait pas en conclure rigoureusement qu'elle n'a pas été écrite. « J'ai su, dit le duc de Rovigo, que dans les premiers jours de la Restauration, en 1814, l'un des secrétaires de M. de Talleyrand n'a pas cessé de faire des recherches dans les archives, sous la galerie du muséum. Je tiens ce fait de celui qui a reçu l'ordre de l'y laisser pénétrer. Il en a été fait de même, au dépôt de la guerre pour les actes du procès de M. le duc d'Enghien, où il n'est resté que la sentence. Le fait est vrai. Tous les papiers diplomatiques, et notamment la correspondance de M. de Talleyrand avec l'empereur et le premier consul, furent transportés des archives du muséum à l'hôtel de la rue Saint-Florentin. On en détruisit une partie. Le reste fut enfoui dans un poêle et l'on oublia de mettre le feu. La prudence du ministre ne put aller plus loin contre la légèreté du prince. Les documents non brûlés furent retrouvés. Quelqu'un pensa les devoir conserver. J'ai tenu dans mes mains et lu de mes yeux une lettre de M. de Talleyrand. Elle est datée du 8 mars 1804 et relative à l'arrestation non encore exécutée de M. le duc d'Enghien. Le ministre invite le premier consul à sévir contre ses ennemis. On ne me permit pas de garder cette lettre. J'en ai retenu seulement ces deux passages. Si la justice oblige de punir rigoureusement, la politique exige de punir sans exception. Point de suspension. J'indiquerai au premier consul M. de Caulaincourt, auquel il pourrait donner ses ordres et qui les exécuterait avec autant de discrétion que de fidélité. Ce rapport du prince de Talleyrand paraîtra-t-il un jour en entier? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'il existait encore il y a 2 ans. Il y eut une délibération du Conseil pour l'arrestation du duc d'Enghien. Cambacérès, dans ses mémoires inédits, affirme, et je le crois, qu'il s'opposa à cette arrestation. Mais en racontant ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'on lui répliqua. Du reste, le mémorial de Sainte-Hélène nie les sollicitations en miséricorde auxquelles Bonaparte aurait été exposé. La prétendue scène de Joséphine demandant à genoux la grâce du duc d'Enghien, s'attachant au pan de l'habit de son mari et se faisant traîner par ce mari inexorable, est une de ces inventions de mélodrame avec lesquelles nos fabliers composent aujourd'hui la véridique histoire. Joséphine ignorait, le 19 mars au soir, que le duc d'Enghien devait être jugé. Elle le savait seulement arrêté. Elle avait promis à madame de Rémusat de s'intéresser au sort du prince. Comme celle-ci revenait, le 19 au soir, à la Malmaison avec Joséphine, on s'aperçut que la future impératrice, au lieu d'être uniquement préoccupée des périls du prisonnier de Vincennes, mettait souvent la tête à la portière de sa voiture pour regarder un général mêlé à sa suite. La coquetterie d'une femme avait emporté ailleurs la pensée qui pouvait sauver la vie du duc d'Enghien. Ce ne fut que le 21 mars que Bonaparte dit à sa femme « Le duc d'Enghien est fusillé ». Cette parole, en regardant à une montre, a été mal à propos attribuée à M. de Talleyrand. Ces mémoires de Madame de Rémusat, que j'ai connues, étaient extrêmement curieux sur l'intérieur de la cour impériale. L'auteur les a brûlés pendant les 100 jours et ensuite écrit de nouveau. Ce ne sont plus que des souvenirs, reproduits par des souvenirs. La couleur est affaiblie. Mais Bonaparte y est toujours montré à nu et jugé avec impartialité. Des hommes attachés à Napoléon disent qu'il ne sut la mort du duc d'Enghien qu'après l'exécution du prince. Ce récit paraîtrait recevoir quelques valeurs de l'anecdote rapportée plus haut par le duc de Rovigo concernant Réal allant à Vincennes. Si cette anecdote était vraie. La mort, une fois arrivée par les intrigues du parti révolutionnaire, Bonaparte reconnut le fait accompli, pour ne pas irriter des hommes qu'il croyait puissants. Cette ingénieuse explication n'est pas recevable. Chapitre 7. Part de chacun. En résumant maintenant ces faits, voici ce qu'ils m'ont prouvé. Bonaparte seul a voulu la mort du duc d'Enghien. Personne ne lui avait fait une condition de cette mort pour monter au trône. Cette condition supposée est une de ces subtilités des politiques qui prétendent trouver des causes occultes à tout. Cependant, il est probable que certains hommes compromis ne voyait pas, sans plaisir, le premier consul se séparer à jamais des Bourbons. Le jugement de Vincennes fut une affaire de tempérament corse, un accès de froide colère, de passion précautionnée contre les descendants de Louis XIV, spectre toujours menaçant. Monsieur de Caulaincourt n'est coupable que d'avoir accepté le prix du sang. Murat n'a à se reprocher que d'avoir transmis des ordres généraux et de n'avoir pas eu la force de se retirer. Il n'était point à Vincennes pendant le jugement. Le duc de Rovigo s'est trouvé chargé de l'exécution. Il avait probablement un ordre secret. Le général Hulin l'insinue. Quel homme eût osé prendre sur lui de faire exécuter de suite une sentence à mort sur le duc d'Enghien s'il n'eût agi d'après un mandat impératif? Quant à M. de Talleyrand, prêtre et gentilhomme, il inspira le meurtre en inquiétant. Il n'était pas en paix avec la légitimité. Il serait possible, en recueillant ce que Napoléon a dit à Sainte-Hélène et les lettres que l'évêque d'Autun a pu écrire, de prouver que celui-ci a pris à la mort du duc d'Enghien une fort large part. Toutefois, il ne faut pas aller au-delà de la vérité. Que M. de Talleyrand ait décidé Bonaparte à la fatale arrestation contre l'avis de Cambacérès, il est difficile de le nier. mais qu'il ait prévu le résultat du conseil qu'il donnait, il est difficile de l'admettre. Comment aurait-il pu croire que de propos délibérés, le premier consul eût préféré une mesure toute dommageable à un rôle de magnanimité tout profitable? La légèreté, le caractère, l'éducation, les habitudes du ministre l'éloignaient de la violence. La corruption lui ôtait l'énergie. Il était trop peu honorable pour devenir profond criminel. S'il se permit des conseils funestes, il est clair qu'il n'en sentit pas la portée. Comme il s'assit sous la Restauration auprès de Fouché, sans se douter qu'il se perdait par cette association. Le prince de Bénévent ne s'occupait point des difficultés qui découlaient du bien ou du mal, parce qu'il ne les voyait pas, le sens moral lui manquait. Aussi se trompait-il éternellement dans ses jugements sur l'avenir. La commission militaire a jugé avec douleur et repentir. Telle est, consciencieusement, impartialement, strictement, la juste part de chacun. Mon sort a été trop lié à cette catastrophe pour que je n'aie pas essayé d'en éclaircir les ténèbres et d'en exposer les détails. Si Bonaparte n'eût pas tué le duc d'Enghien, s'il m'eût de plus en plus rapproché de lui et son penchant l'y portait, qu'en fût-il résulté pour moi? Ma carrière littéraire était finie. Entrée de plein saut dans la carrière politique où j'ai prouvé ce que j'aurais pu par la guerre d'Espagne, je serais devenu riche et puissant. La France aurait pu gagner à ma réunion avec l'empereur. Moi, j'y aurais perdu. Peut-être serais-je parvenu à maintenir quelques idées de liberté et de modération dans la tête du grand homme. Mais ma vie, rangée parmi celles qu'on appelle heureuses, eût été privée de ce qui en fait le caractère et l'honneur, la pauvreté, le combat et l'indépendance. Chapitre 8, Chantilly, novembre 1838. Bonaparte, ses sophismes et ses remords. Enfin, le principal accusé se lève après tous les autres. Il ferme la marche des pénitents ensanglantés. Supposons qu'un juge fasse comparaître devant lui le nommé Bonaparte, comme le capitaine rapporteur fit comparaître devant lui le nommé d'Enghien. Supposons que la minute du dernier interrogatoire, calquée sur le premier, nous reste. Comparez Élisée. À lui demander ses noms et prénoms. A répondu ce nommé Napoléon Bonaparte. À lui demander où il a résidé depuis qu'il est sorti de France. A répondu aux pyramides, à Madrid, à Berlin, à Vienne, à Moscou, à Sainte-Hélène. À lui demander quel rang il occupait dans l'armée. A répondu commandant à l'avant-garde des armées de Dieu. Aucune autre réponse ne sort de la bouche du prévenu. Les divers acteurs de la tragédie se sont mutuellement chargés. Bonaparte seul n'en rejette la faute sur personne. Il conserve sa grandeur sous le poids de la malédiction. Il ne fléchit point la tête et reste debout. Il s'écrie comme le stoïcien. « Douleur, je n'avouerai jamais que tu sois un mal. » Mais ce que, dans son orgueil, il n'avouera point aux vivants, il est contraint de le confesser aux morts. Ce Prométhée, le vautour au sein ravisseur du feu céleste, se croyait supérieur à tout, et il est forcé de répondre au duc d'Enghien qu'il a fait poussière avant le temps. Le squelette, trophée sur lequel il s'est abattu, l'interroge et le domine par une nécessité du ciel. La domesticité et l'armée, l'antichambre et la tente, avaient leur représentant à Sainte-Hélène. Un serviteur, estimable par sa fidélité au maître qu'il avait choisi, était venu se placer près de Napoléon comme un écho à son service. La niaiserie lui répétait la fable en lui donnant un accent de sincérité. Bonaparte était la destinée. Comme elle, il trompait dans la forme les esprits fascinés. Mais au fond de ses impostures, on entendait retentir cette vérité inexorable. « Je suis !» Et l'univers en a senti le poids. l'auteur de l'ouvrage le plus accrédité sur Sainte-Hélène expose la théorie qu'inventait Napoléon au profit des meurtriers. L'exilé volontaire tient pour parole d'évangile un homicide bavardage à prétention de profondeur, qui expliquerait seulement la vie de Napoléon telle qu'il voulait l'arranger, et comme il prétendait qu'elle fût écrite. Il laissait ses instructions à ses néophytes. Monsieur le comte de Las Cases apprenait sa leçon sans s'en apercevoir. Le prodigieux captif, errant dans des sentiers solitaires, entraînait après lui par des mensonges son crédule adorateur, de même qu'Hercule suspendait les hommes à sa bouche par des chaînes d'or. « La première fois, dit l'honnête chambellan, que j'entendis Napoléon prononcer le nom du duc d'Enghien, j'en devins rouge d'embarras. Heureusement, je marchais à sa suite dans un sentier étroit, autrement il n'eût pas manqué de s'en apercevoir. Néanmoins, lorsque, pour la première fois, l'empereur développa l'ensemble de cet événement, ses détails, ses accessoires, lorsqu'il exposa ses divers motifs, avec sa logique serrée, lumineuse, entraînante, je dois confesser que l'affaire me semblait prendre à mesure une face nouvelle. L'empereur traitait souvent ce sujet, ce qui m'a servi à remarquer dans sa personne des nuances caractéristiques très prononcées. J'ai pu voir à cette occasion très distinctement en lui, et maintes fois, l'homme privé se débattant avec l'homme public, et les sentiments naturels de son cœur aux prises avec ceux de sa fierté et de la dignité de sa position. Dans l'abandon de l'intimité, il ne se montrait pas indifférent au sort du malheureux prince. Mais sitôt qu'il s'agissait du public, c'était tout autre chose. Un jour, après avoir parlé avec moi du sort et de la jeunesse de l'infortuné, il termina en disant « Et j'ai appris depuis, mon cher, qu'il m'était favorable. On m'a assuré qu'il ne parlait pas de moi sans quelque admiration. Et voilà pourtant la justice distributive d'ici-bas. » Et ses dernières paroles furent dites avec une telle expression, tous les traits de la figure se montraient en telle harmonie avec elle, que si celui que Napoléon plaignait eût été dans ce moment en son pouvoir, je suis bien sûr que, quelles qu'eussent été ses intentions ou ses actes, il eût été pardonné avec ardeur. L'empereur avait coutume de considérer cette affaire sous deux rapports très distincts, celui du droit commun ou de la justice établie, et celui du droit naturel ou des écarts de la violence. Avec nous et dans l'intimité, l'empereur disait que la faute, au-dedans, pourrait en être attribuée à un excès de zèle autour de lui, ou à des vues privées, ou enfin à des intrigues mystérieuses. Il disait qu'il avait été poussé inopinément, qu'on avait pour ainsi dire surpris ses idées, précipité ses mesures, enchaîné ses résultats. Assurément, disait-il, si j'eusse été instruit à temps de certaines particularités concernant les opinions et le naturel du prince, si surtout j'avais vu la lettre qu'il m'écrivit et qu'on ne me remit, Dieu sait par quel motif, qu'après qu'il n'était plus, bien certainement j'eusse pardonné. Et il nous était aisé de voir que le cœur et la nature seule dictaient ces paroles à l'empereur, et seulement pour nous, car il se serait senti humilié qu'on pût croire un instant qu'il cherchât à se décharger sur autrui ou descendit à se justifier. Sa crainte à cet égard ou sa susceptibilité était telle qu'en parlant à des étrangers ou dictant sur ce sujet pour le public, il se restreignait à dire que, s'il eût eu connaissance de la lettre du prince, peut-être lui eût-il fait grâce, vu les grands avantages politiques qu'il en eût pu recueillir. Et traçant de sa main ses dernières pensées, qu'il suppose devoir être consacrées parmi les contemporains et dans la postérité, il prononce, sur ce sujet, qu'il regarde comme un des plus délicats pour sa mémoire, que si c'était à refaire, il le ferait encore. Ce passage, quant à l'écrivain, a tous les caractères de la plus parfaite sincérité. Elle brille jusque dans la phrase où M. le comte de Las Cases déclare que Bonaparte aurait pardonné avec ardeur à un homme qui n'était pas coupable. Mais les théories du chef sont les subtilités à l'aide desquelles on s'efforce de concilier ce qui est inconciliable. En faisant la distinction du droit commun ou de la justice établie et du droit naturel ou des écarts de la violence, Napoléon semblait s'arranger d'un sophisme dont, au fond, il ne s'arrangeait pas. Il ne pouvait soumettre sa conscience de même qu'il avait soumis le monde. Une faiblesse naturelle aux gens supérieurs et aux petites gens, lorsqu'ils ont commis une faute, et de la vouloir faire passer pour l'œuvre du génie, pour une vaste combinaison que le vulgaire ne peut comprendre. L'orgueil dit ces choses-là, et la sottise les croit. Bonaparte regardait sans doute comme la marque d'un esprit dominateur cette sentence qu'il débitait dans sa componction de grand homme. « Mon cher, voilà pourtant la justice distributive d'ici-bas. Attendrissement vraiment philosophique, quelle impartialité, comme elle justifie, en le mettant sur le compte du destin, le mal qui est venu de nous-mêmes. On pense tout excuser maintenant, lorsqu'on s'est écrié « Que voulez-vous ? C'était ma nature, c'était l'infirmité humaine. » Quand on a tué son père, on répète « Je suis fait comme cela. » Et la foule reste là, bouche béante, et l'on examine le crâne de cette puissance, et l'on reconnaît qu'elle était faite comme cela. Et que m'importe que vous soyez fait comme cela? Dois-je subir votre façon d'être? Ce serait un beau chaos que le monde, si tous les hommes qui sont faits comme cela venaient à vouloir s'imposer les uns aux autres. Lorsqu'on ne peut effacer ses erreurs, on les divinise, on fait un dogme de ses torts, on change en religion des sacrilèges, et l'on se croirait apostat de renoncer au culte de ses iniquités. Chapitre 9. Ce qu'il faut conclure de tout ce récit. Inimitiés enfantées par la mort du duc d'Enghien. Une grave leçon est à tirer de la vie de Bonaparte. Deux actions, toutes deux mauvaises, ont commencé et amené sa chute. La mort du duc d'Enghien, la guerre d'Espagne. Il a beau passer dessus avec sa gloire, elles sont demeurées là pour le perdre. Il a péri par le côté même où il s'était cru fort, profond, invincible, lorsqu'il violait les lois de la morale en négligeant, en dédaignant sa vraie force, c'est-à-dire ses qualités supérieures dans l'ordre et l'équité. Tant qu'il ne fit qu'attaquer l'anarchie et les étrangers ennemis de la France, il fut victorieux. Il se trouva dépouillé de sa vigueur aussitôt qu'il entra dans les voies corrompues. Le cheveu coupé par Dalila n'est autre chose que la perte de la vertu. Tout crime porte en soi une incapacité radicale et un germe de malheur. Pratiquons donc le bien pour être heureux et soyons justes pour être habiles. En preuve de cette vérité, remarquez qu'au moment même de la mort du prince, commença la dissidence qui, croissant en raison de la mauvaise fortune, détermina la chute de l'ordonnateur de la tragédie de Vincennes. Le cabinet de Russie, à propos de l'arrestation du duc d'Enghien, adressa des représentations vigoureuses contre la violation du territoire de l'Empire. Bonaparte sentit le coup et répondit dans le Moniteur par un article foudroyant qui rappelait la mort de Paul Ier. À Saint-Pétersbourg, un service funèbre avait été célébré pour le jeune Condé. Sur le cénotaphe, on lisait « Au duc d'Enghien, quem devoravit bellua Corsica ». Les deux puissants adversaires se réconcilièrent en apparence dans la suite. Mais la blessure mutuelle que la politique avait faite et que l'insulte élargie leur resta au cœur. Napoléon ne se crut vengé que quand il vint coucher à Moscou. Alexandre ne fut satisfait que quand il entra dans Paris. La haine du cabinet de Berlin sortit de la même origine. J'ai parlé de la noble lettre de M. de la Forêt dans laquelle il racontait à M. de Talleyrand l'effet qu'avait produit le meurtre du duc d'Enghien à la cour de Potsdam. Madame de Staël était en Prusse lorsque la nouvelle de Vincennes arriva. « Je demeurais à Berlin, dit-elle, sur le quai de la Spree, et mon appartement était au rez-de-chaussée. Un matin, à 8 heures, on m'éveilla pour me dire que le prince Louis-Ferdinand était à cheval sous mes fenêtres et me demandait de venir me parler. « Savez-vous, me dit-il, que le duc d'Enghien a été enlevé sur le territoire de Baden, livré à une commission militaire et fusillé 24 heures après son arrivée à Paris ?»« Quelle folie !» lui répondis-je. « Ne voyez-vous pas que ce sont les ennemis de la France qui ont fait circuler ce bruit ?» En effet, je l'avoue, ma haine, quelque forte qu'elle fût contre Bonaparte, n'allait pas jusqu'à me faire croire à la possibilité d'un tel forfait. « Puisque vous doutez de ce que je vous dis, me répondit le prince Louis, je vais vous envoyer le moniteur, dans lequel vous lirez le jugement. » Il partit à ces mots, et l'expression de sa physionomie présageait la vengeance ou la mort. Un quart d'heure après, j'eus entre les mains ce moniteur, du 21 mars, 30 pluvioses, qui contenait un arrêt de mort prononcé par la commission militaire, séant à Vincennes, contre le nommé Louis d'Enghien. C'est ainsi que des Français désignaient le petit-fils des héros qui ont fait la gloire de leur patrie. Quand on abjurerait tous les préjugés d'illustre naissance, que le retour des formes monarchiques devait nécessairement rappeler, pourrait-on blasphémer ainsi les souvenirs de la bataille de Lens ou celle de Rocroi? Ce Bonaparte qui en a gagné des batailles ne sait pas même les respecter. Il n'y a ni passé ni avenir pour lui. Son âme impérieuse et méprisante ne veut rien reconnaître de sacré pour l'opinion, n'admet le respect que pour la force existante. Le prince Louis m'écrivait, en commençant son billet par ces mots, le nommé Louis de Prusse, fait demander Madame de Staël, etc. Il sentait l'injure faite au sang royal dont il sortait, au souvenir des héros parmi lesquels il brûlait de se placer. Comment, après cette horrible action, un seul roi de l'Europe a-t-il pu se lier avec un tel homme? La nécessité, dira-t-on? Il y a un sanctuaire de l'âme où jamais son empire ne doit pénétrer. S'il n'en était pas ainsi, que serait la vertu sur la terre? Un amusement libéral qui ne conviendrait qu'aux paisibles loisirs des hommes privés. Ce ressentiment du prince, qu'il devait payer de sa vie, durait encore lorsque la campagne de Prusse s'ouvrit en 1806. Frédéric Guillaume, dans son manifeste du 9 octobre, dit « Les Allemands n'ont pas vengé la mort du duc d'Enghien, mais jamais le souvenir de ce forfait ne s'effacera parmi eux. » Ces particularités historiques, peu remarquées, méritaient de l'être, car elles expliquent des inimitiés dont on serait embarrassé de trouver ailleurs la cause première. Et elles découvrent en même temps ces degrés par lesquels la Providence conduit la destinée d'un homme, pour arriver de la faute au châtiment. Chapitre 10. Un article du Mercure. Changement dans la vie de Bonaparte. Heureuse, du moins, ma vie qui ne fut ni troublée par la peur, ni atteinte par la contagion, ni entraînée par les exemples. La satisfaction que j'éprouve aujourd'hui de ce que je fis alors me garantit que la conscience n'est point une chimère. Plus content que tous ces potentats, que toutes ces nations tombées aux pieds du glorieux soldat, je relis avec un orgueil pardonnable cette page qui m'est restée comme mon seul bien et que je ne dois qu'à moi. En 1807, le cœur encore ému du meurtre que je viens de raconter, j'écrivais ces lignes. Elles firent supprimer le mercure et exposèrent de nouveau ma liberté. Lorsque, dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Il croit, inconnu auprès des cendres de Germanicus, et déjà l'intègre Providence a livré à un enfant obscur la gloire du maître du monde. Si le rôle de l'historien est beau, il est souvent dangereux. Mais il est des autels comme celui de l'honneur, qui, bien qu'abandonnés, réclament encore des sacrifices. Le Dieu n'est point anéanti parce que le temple est désert. Partout où il reste une chance à la fortune, il n'y a point d'héroïsme à la tenter. Les actions magnanimes sont celles dont le résultat prévu est le malheur et la mort. Après tout, qu'importent les revers si notre nom, prononcé dans la postérité, va faire battre un cœur généreux 2000 ans après notre vie. La mort du duc d'Enghien, en introduisant un autre principe dans la conduite de Bonaparte, décomposa sa correcte intelligence. Il fut obligé d'adopter, pour lui servir de bouclier, des maximes dont il n'eut pas à sa disposition la force entière, car il les faussait incessamment par sa gloire et par son génie. Il devint suspect, il fit peur. On perdit confiance en lui et dans sa destinée. Il fut contraint de voir, sinon de rechercher, des hommes qu'il n'aurait jamais vus et qui, par son action, se croyaient devenus ses égaux. La contagion de leur souillure le gagnait. Il n'osait rien leur reprocher, car il n'avait plus la liberté vertueuse du blâme. Ses grandes qualités restèrent les mêmes, mais ses bonnes inclinations s'altérèrent et ne soutinrent plus ses grandes qualités. Par la corruption de cette tâche originelle, sa nature se détériora. Dieu commanda à ses anges de déranger les harmonies de cet univers, d'en changer les lois, de l'incliner sur ses pôles. Les anges, dit Milton, poussèrent avec effort obliquement le centre du monde. Le soleil reçut l'ordre de détourner ses rênes du chemin de l'équateur. Les vents déchirèrent les bois et bouleversèrent les mers. They, with labor, pushed oblique the centric globe. The sun was bid turn whence from the equinoctial road. Winds rend the woods and seas upturn. Chapitre 11. Abandon de Chantilly. Les cendres de Bonaparte seront-elles exhumées comme l'ont été celles du duc d'Enghien? Si j'avais été le maître, cette dernière victime dormirait encore sans honneur dans le fossé du château de Vincennes. Cet excommunié eût été laissé, à l'instar de Raymond de Toulouse, dans un cercueil ouvert. Nulle main d'homme n'aurait osé dérober sous une planche la vue du témoin des jugements incompréhensibles et des colères de Dieu. Le squelette abandonné du duc d'Enghien et le tombeau désert de Napoléon à Sainte-Hélène feraient pendant. Il n'y aurait rien de plus remémoratif que ces restes en présence aux deux bouts de la terre. Du moins, le duc d'Enghien n'est pas demeuré sur le sol étranger, ainsi que l'exilé des nations. Celui-ci a pris soin de rendre à celui-là sa patrie, un peu durement, il est vrai. Mais sera-ce pour toujours? La France, tant de poussière vannée par le souffle de la Révolution l'atteste, n'est pas fidèle aux ossements. Le vieux Condé, dans son testament, déclare qu'il n'est pas sûr du pays qu'il habitera le jour de sa mort. Ô Bossuet, que n'auriez-vous point ajouté au chef-d'œuvre de votre éloquence si, lorsque vous parliez sur le cercueil du grand Condé, vous eussiez pu prévoir l'avenir? C'est ici même, c'est à Chantilly, qu'est né le duc d'Enghien, Louis-Antoine-Henri de Bourbon, né le 2 août 1772 à Chantilly, dit l'arrêt de mort. C'est sur cette pelouse qu'il joua dans son enfance, la trace de ses pas s'est effacée. Et le triomphateur de Fribourg, de Nordlingen, de Lens, de Senef, où est-il allé avec ses mains victorieuses et maintenant défaillantes? Et ses descendants, le Condé de Johannisberg et de Bernstein? Et son fils et son petit-fils, où sont-ils? Ce château, ces jardins, ces jets d'eau qui ne se taisaient ni jour ni nuit, que sont-ils devenus? Des statues mutilées, des lions dont on restaure la griffe ou la mâchoire, des trophées d'armes sculptés dans un mur croulant, des écussons à fleurs de lys effacés, des fondements de tourelles rasés, quelques coursiers de marbre au-dessus des écuries vides que n'anime plus de ses hennissements le cheval de Rocroi, près d'un manège une haute porte non achevée, Voilà ce qui reste des souvenirs d'une race héroïque. Un testament noué par un cordon a changé les possesseurs de l'héritage. À diverses reprises, la forêt entière est tombée sous la cognée. Des personnages des temps écoulés ont parcouru ces chasses, aujourd'hui muettes, jadis retentissantes. Quel âge et quelle passion avaient-ils lorsqu'ils s'arrêtaient au pied de ces chaînes? Quelle chimère les occupait? Oh, mes inutiles mémoires, je ne pourrais maintenant vous dire qu'à Chantilly, Condé vous lise quelquefois, qu'Enghien en soit touché. Hommes obscurs, que sommes-nous auprès de ces hommes fameux? Nous disparaîtrons sans retour. Vous renaîtrez, œillets de poète, qui reposez sur ma table auprès de ce papier, et dont j'ai cueilli la petite fleur attardée parmi les bruyères. Mais nous ne revivrons pas avec la solitaire parfumée qui m'a distrait.